Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Pierre Rondeau, avec Rémi Barré, Emmanuel Dancourt et Perico Légas. Et on vous attend également très nombreux au Strandard, au 3216 pour réagir à tous nos débats. Et dans un instant, le Front Populaire qui promet un SMIC à 1600 € net en cas de victoire. Pour ou contre, dites-nous aussi ce que vous en pensez sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On parlera justement de l'appel de Kylian Mbappé et des sportifs. Et puis on se demandera si Jordan Bardella est prêt à gouverner. On se demandera également si vous êtes fidèle à votre constructeur auto. Vous savez, on connaît tous des gens qui n'ont eu qu'une seule marque de voiture dans leur vie. Voilà, ça ce sera dans le zapping à 14h. Le boom des séjours en camping-car, plus 10% de réservation en un an. Mais les vacances au camping, en camping-car, pour vous, est-ce l'enfer ou le paradis? Vos témoignages seront lus, bien sûr, par Rémi Barré sur l'appli RMC. Et puis Rémi, on vous fait gagner un très très beau cadeau sur RMC.
Oui, à l'occasion de l'Euro 2024 qui vient de débuter, nous vous envoyons en Allemagne pour suivre tous les matchs de l'équipe de France. Nous vous proposons mieux que ça, c'est l'expérience RMC, le voyage à Dortmund, vol et hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match, et bien sûr vos deux places pour France-Pologne le 25 juin prochain. Dès que vous entendez cette alerte qui peut tomber à tout moment, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 7-32-16 et vous inscrire. Euro par SMS au 7-32-16.
RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le chiffre du jour. 1600 € net par mois, c'est le montant du SMIC que souhaite mettre en place le nouveau Front Populaire en cas de victoire aux législatives. Une augmentation de plus de 14% qui pourra arriver très rapidement malgré, Rémi, les levées de boucliers de plusieurs économistes et personnalités publiques.
Oui, à commencer par l'actuel ministre de l'économie Bruno Le Maire qui parle de cette éventualité comme d'une véritable catastrophe à venir. Pour lui, si l'on augmente brutalement le SMIC de 200 € pour le passer à 1600 € net, le patron ira voir son ouvrier ou son salarié pour lui dire qu'il ne pourra pas le garder. Nous allons tout droit, selon Bruno Le Maire, vers un chômage de masse comme on n'en a pas connu depuis 40 ans. Même son de cloche du côté du patronat. Michel Picon, c'est le président de l'UDEP, l'Union des entreprises de proximité, estime qu'un SMIC à 1600 €, eh bien beaucoup de petites entreprises, de petits commerces ou de petits artisans ne pourront pas le payer. De son côté, la majorité présidentielle a également chiffré une éventuelle facture d'un SMIC à 1600 €. Elle affirme qu'il en coûterait 3 milliards d'euros et engendrerait la destruction de 500 000 emplois.
Alors, un SMIC à 1600 € net par mois, pour ou contre, Pierre Rondeau?
Allez, vas-y.
Vous me posez la question politiquement ou économiquement?
Économiquement.
Économiquement.
Même toi, voilà.
Alors, je ne vais pas me référer directement à ce que dit le Front Populaire et ce que dit son programme. Je me pose simplement la question.
Ah, bah si, l'idée, c'est de se référer à ce qu'ils veulent faire.
Sur le résultat.
Dans les 15 jours, en plus.
Le résultat serait SMIC à 1600 €.
Oui.
Comment, pourquoi,
net,
de quelle façon?
Net.
Net. Alors justement, c'est important de le dire. Net.
Oui.
Aujourd'hui, le SMIC,
il est à 1398 €.
Le super net, donc en intégrant les cotisations salariales et patronales, le super brut, le SMIC, il est à 2840 €. Autrement dit, quand on paye quelqu'un net de charge, sur sa fiche de paye, il y a 1398 €. Le patron, pour avoir embauché cette personne, 2008. A payé 2840 €.
À 1600, ça fait combien alors?
Alors attends, laisse-moi finir. Donc à partir de là, on sait que
si
le patron paye 2008 pour qu'au final le salarié touche 1300, effectivement, tu as les cotisations salariales et patronales. Énormément d'économistes, Rémi a dit, des gens qui ont été sondés, j'ai pas entendu un seul économiste en parler. Moi, je sais qu'il y a énormément d'économistes qui ne sont pas politisés.
On a eu Eric vendredi.
Peut-être, mais moi, je peux citer Camille Landais, je peux citer Jérôme Gauthier, je peux citer Thomas Piketty, je peux citer Julia Cagé. Beaucoup d'autres posent sur la table la question du SMIC, mais je mets un grand mais, et c'est pour ça que je vous dis économiquement, ce qui va compter, ce sont les cotisations salariales et patronales. Beaucoup seraient d'accord d'augmenter le SMIC avec une contrepartie de réduire les cotisations salariales et patronales.
Oui.
Si tu fais en sorte que le patron ne paye pas plus de super brut, mais permette à ce que le salarié ait un meilleur pouvoir d'achat, tout le monde est d'accord. Ce que proposent ces économistes, et c'est pour ça que c'est pas une réponse politique, c'est une réponse économique, c'est que à la fois le levier du SMIC, c'est le seul levier qu'a l'État sur les salaires. Il peut pas imposer aux entreprises d'augmenter les salaires au-dessus du SMIC, c'est pas possible, il a pas ce contrôle. Il a deux leviers, c'est les cotisations et le SMIC. Le RN ne propose que les cotisations. La meilleure solution, le meilleur outil serait les cotisations et le SMIC, baisser les cotisations et pour permettre une augmentation du SMIC sans augmenter le coût du travail, sans augmenter le super brut. Et là, je suis d'accord. Et d'un point de vue économique, je suis totalement d'accord. Si derrière, c'est une solution de on maintient tel quel les cotisations, mais on augmente le SMIC, oui, de fait, le coût du travail augmente et le chômage augmente, d'accord. Mais la solution idoine, économiquement légitime, c'est augmenter le SMIC et réduire les cotisations.
Est-ce que vous trouvez, vous, cette décision dangereuse ou au contraire formidable, Emmanuel Dancourt?
Ben non, je suis, on en parlait en loge, on devrait venir filmer ce qui se passe en loge de maquillage tout à l'heure avec Pierrot. On était effectivement d'accord, c'est pas une très très bonne nouvelle pour les entreprises, donc il y a peut-être moyen mais de trouver quelque chose qui fonctionne. Moi, je suis assez interpellée par ce qu'a fait le groupe Michelin. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, le patron,
on en a parlé,
132 000, on en a parlé ici, d'accord, 132 000 salariés qui vont avoir une réhausse du salaire parce que, alors d'habitude, c'est les syndicats qui luttent pour ça. Et là, c'est le patron. C'est le patron. Et lui, il s'est appuyé sur la définition de l'Organisation mondiale du travail, de l'OIT, qui dit que un salaire minimum doit permettre à chaque salarié de subvenir aux besoins essentiels de la famille, sachant qu'il part sur une famille de deux enfants, un couple et deux enfants. Il y a quand même des familles largement plus grosses que ça aujourd'hui. Alors, il parle d'alimentation, logement, transport, éducation des enfants, frais de santé. Donc, à la fois, ça m'interroge. J'ai pas de réponse, je me pose des questions, parce que si c'est pour
avantager les uns et pénaliser les autres... Le SMIC, il n'est pas à 1600 chez Michelin. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que le salaire doit être décent, mais je dis, il n'est pas forcément à 1600. Oui. Donc en
le
fait,
patron, il l'a voilà. dit, mais si
il l'a dit, mais non, mais d'accord. Mais oui, moi je et ça se trouve, il est à 1430. Tu vois, donc en fait, rien ne te dit que le salaire chez Michelin est à 1600. Donc c'est un peu
alors,
le biais.
Moi, je regarde cet exemple-là, ça m'interroge. Quand on commence à se renseigner, on voit aussi, par exemple, au Japon, ils se font des SMIC régionaux. Qui va dépendre de la qualité de vie et de combien tu peux gagner. On est moins bien payé en région traditionnellement que dans les capitales. Pourquoi pas, il y a peut-être des choses à travailler de ce côté-là, ou des SMIC par branche aussi, même si en France on n'est pas très doué pour le dialogue social. Oui, je sais,
mais la constitution française l'interdirait, parce que tout homme est libre, égaux en droit, et donc on ne peut pas distinguer une personne qui serait de Charente-Maritime et une personne qui serait de Paris.
Sur un critère territorial.
En tout cas, ça interroge.
Ça, je comprends effectivement que ça interroge. Perico, les gars, je vous sens très sensible sur le sujet.
Oui, parce que c'est la preuve qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, pour promettre quelque chose d'aussi aberrant. Vous vous souvenez, en 97 et 35 heures, c'était une promesse. Ils n'étaient pas sûrs de gagner. Quand ils ont dû l'appliquer, on sait les conséquences catastrophiques que ça a eu sur l'économie française.
Mais on ne le savait pas au départ.
Alors, ce n'est pas que les 35 heures soient absurdes. C'est pas que les 1600 euros soient absurdes. Il faut créer la configuration économique qui permette. C'est quoi la solution du SMIC à 1600 qui est pas aberrant? C'est qu'il y ait tellement d'emplois, de création d'emplois par une réindustrialisation du pays, que du coup, ça peut rentrer dans les codes et effectivement, ensuite, tu peux répartir tes charges. Mais en l'état actuel, ils arrivent le 8 juillet au pouvoir, à l'hôtel Matignon, avec un gouvernement. Ils appliquent cette mesure sans avoir eu le temps de mettre, j'allais dire, une répartition des charges de le préparer. Ça veut dire qu'immédiatement, l'entreprise française se prend le coût des 1600. Donc, donne-moi le chiffre. 1600, on va être à
3000.
Bon, ça veut dire que t'as 60, on dit 62 à 63% des entreprises françaises, les petites et moyennes entreprises, qui sont confrontées à une situation inextricable. Donc, soit elles licencient la moitié ou un tiers de leur personnel parce qu'elles ne peuvent pas payer cette somme salariale, soit certaines dépensent le bilan. Voilà. Donc, comme je ne pense pas que le Front Populaire, je ne pense pas que François Hollande veuille provoquer ça, ils ont dit ça pour gagner un peu plus de voix, avoir le plus de députés possible, mais c'est la preuve scientifique, ils savent qu'ils ne gagneront pas.
Sachant que les SMICards ne font pas partie des ménages les plus pauvres. Hein. C'est 23% des SMICards qui font partie des ménages les plus pauvres. Et ça, on ne l'a pas forcément en tête, ce chiffre-là. Voilà.
C'est tellement aberrant.
Après, évidemment, si tu mets 1600 et en réduisant les cotisations sociales, donc c'est formidable pour le travailleur et le patron, il y voit du feu. Mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, les cotisations patronales servent à quelque chose. Ou alors, ou nos cotisations sociales, elles.
Et à ce moment-là.
J'imagine qu'on ne nous prend pas comme ça de l'argent sur notre salaire. Autant d'argent pour rien, Pierre Rondeau.
On touche le modèle social.
Mais oui.
Et on dit aux étrangers qui viennent se soigner chez nous, on ne peut plus vous accueillir parce qu'on a plus d'argent.
Tu peux aussi.
La gauche va être
en fois. Ça sert à quelque chose, des cotisations aussi. nous, c'est pas la peine de les mettre.
Évidemment, mais c'est pour ça qu'il y a des débats politiques, des débats théoriques, économiques. Économiquement, on est tous d'accord pour le dire ici. Et oui, si tu réduis les charges patronales et salariales, tu peux assurer un SMIC à 1 600, voire à 1 700.
C'est formidable.
Tout, sans augmenter le coût du travail.
Si notre net était comme notre brut, écoutez, ce serait formidable.
Et ensuite, dans la réflexion. Si nous l'avions dit, ça, avec la mode d'emploi, pour y arriver à 1 600, je veux bien. Ils en disaient rien.
Encore une fois, c'est la question électoraliste, la question du temps, la question de 3 semaines de campagne. Il faut faire un programme très rapidement.
Non, mais en une ligne, tu dis. Et on jouera sur les cotisations patronales. C'est une ligne, il n'y a pas de problème.
Moi, j'ai trop confiance à aux économistes qui travaillent sur ce sujet et qui, certains, je pense à Thomas Piketty et Julia Cagé, qui travaillent directement ou indirectement avec ce courant. J'ai trop confiance en eux pour qu'ils viennent leur apporter des conseils et leur dire que cette solution n'est pas la bonne et que l'alternative serait d'assurer une augmentation en réduisant des charges, compensée par un rétablissement de l'ISF, compensée par la mise en place d'une exit tax, compensée par la lutte contre la fraude fiscale.
Il y a quelqu'un qui paye,
voilà.
Il y a un rassemblement.
Je vous le dis, les services publics gratuits, ça n'existe pas. Parce qu'on paye des impôts.
Exactement.
Ils vont développer le programme économique ce soir à Montreuil, donc à côté de Paris. Il y a Julia Cagé, Piketty, tout ça. Ils y seront ce soir. Il y a une grosse réunion pour parler économie sur le front de gauche. Là.
Écoutez, quand même, en tout cas. Il va falloir être sérieux d'un point de vue budgétaire. Aussi, on parle de macroéconomie, il y a la FEP là, qui réunit les 117 plus grandes entreprises françaises, qui met en garde, là à l'instant, contre un risque majeur de décrochage durable de l'économie française et européenne en fonction de l'issue des élections législatives anticipées en France. Et ils appellent les partis politiques, quels qu'ils soient, à la responsabilité budgétaire.
Désolé. Il y a Manu Le Chypre ce matin.
On n'y est pas pour l'instant.
Manu Le Chypre ce matin qui disait qu'on était passé de 1% du risque de faillite en France à 3 à 4%.
Donc ça fait quand même.
Je rappelle que c'est le président et le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a déclassé la France.
Mais tout à fait.
Voilà, c'est pas le Front Populaire.
Évidemment.
Il
ferait mieux que lui.
Depuis la dissolution, on est passé de 1 à 4% de risque de.
J'utilise des moyens
forts. Tu as raison. Patrice est avec nous. Patrice, c'est un chef d'entreprise dans le bâtiment de Seine-et-Marne. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Alors c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur ce SMIC à 1 600 euros net en tant que chef d'entreprise, Patrice.
Bah moi, je suis complètement contre, surtout dans le bâtiment. On a des entreprises étrangères qui viennent travailler en France, qui n'ont pas les mêmes règles que nous. On a des auto-entrepreneurs qui ne cotisent pas comme nous. Donc moi, je veux bien donner 1 600 euros, mais dans ces cas-là, on baisse mes charges.
C'est ça, c'est ce que disait Pierre.
Mais le problème, les charges, on va les baisser, les caisses sont vides, qui va payer ?
Eh oui. Donc, moins de charges, c'est moins de services, ça c'est sûr.
Donc déjà, les caisses sont vides. Si nous, les entrepreneurs, on nous enlève nos cotisations, comment la France va vivre ? C'est déjà la catastrophe. Alors moi, je veux bien les filles ont des bonnes idées. Hein. C'est bien de dire tout ça. Mais qui c'est qui finance ? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le monde du travail ? Parce que je crois qu'ils connaissent pas, tous ces politiciens connaissent pas le monde du travail.
Patrice, un SMIC à 1 600 euros, vous ne pouvez pas garder vos 10 salariés ?
Mais moi, mes gars sont payés tous plus que 1 600 euros.
Ah super, alors super.
Moi j'ai pas, oui, par contre, moi mes clients c'est que du particulier, et ben c'est sûr que le chiffrage il est pas le même, je perds des chantiers des fois parce que je suis 50% plus cher que certaines boîtes.
D'accord, parce que vous payez mieux vos salariés en fait.
Et que vous travaillez bien.
Exactement. Moi j'ai la chance de travailler 15 à 20 km autour de mon dépôt.
D'accord.
Donc c'est pour moi et pour mon personnel c'est du bonheur. Hein. On fait un choix. Mais le problème, c'est que avec la conjoncture actuelle, les travaux, c'est de plus en plus dur à avoir. Les chiffres, c'est de plus en plus serré. Les matériaux, ils augmentent. Nos marges, nous, en tant que patron, elles sont réduites. Donc, c'est un moment, on veut bien tout faire, mais il faut peut-être que les gens se remettent en question aussi.
Et c'est sûr qu'en fait, les tarifs seraient répercutés, on n'en a pas encore parlé, mais sur les clients, j'imagine. Parce qu'effectivement, si vous avez 10 salariés, mais que ça vous coûte, donc là, c'est 200 euros, mais chargé, on va dire 400 par salarié, ça veut dire que ça vous coûte 4 000 par mois pour 10 salariés. Donc, effectivement.
Si c'est chargé.
Dans
le raisonnement. Mais moi, je vous rejoins. On est d'accord que si on maintient tel quel les cotisations, mais on augmente le SMIC, le coût du travail augmente et c'est une évidence, le chômage se crée. C'est vrai.
C'est comme si on passait les salariés de Patrice de 1 600 à 1 800.
Voilà.
Moi, mes salariés qui touchent, je vais dire une bêtise, 1 800 ou 2 000 euros. Ouais. Si le SMIC, on le monte de 300 euros, vous savez ce qu'ils vont faire, tout mon personnel, ils vont venir à ma porte Ils vont se rappeler, ils vont dire Patrice, t'es gentil, mais le smicard qui pousse la brouette, on lui a augmenté de 300 euros. Moi qui suis un maçon confirmé ou un coureur confirmé, on va pas m'augmenter de 300 euros. Il va dire, c'est pas logique, il y aura un problème. C'est sûr qu'il y aura un problème, ça va foutre le bordel. Moi je le dis, c'est haut et fort.
Bah merci beaucoup Patrice, en tout cas pour ce point de vue. Voilà Patrice qui est chef d'entreprise dans le bâtiment avec 10 salariés. Vous avez des messages sur l'appli RMC Rémi.
Il y a Julien qui nous dit, allons-y pour le SMIC à 3500 euros. Nous paierons la baguette 7 euros et nous n'aurons rien gagné. La seule mesure de pouvoir d'achat, c'est la baisse des charges sur les salaires en corrélation avec une baisse des aides sociales pour motiver les gens à se bouger.
Notre invité sur ce débat, c'est Sylvain Bersinger. Il est chef économiste au cabinet Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour essayer de nous éclairer voilà sur cette question qui est importante hein, parce que c'est quand même une des propositions phares du Front Populaire. Le SMIC à 1600 euros, c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous ?
Ben, je crains que les effets pervers d'une telle mesure l'emportent sur les gains, parce que les gains, ils sont évidents, c'est que les personnes concernées auront un meilleur salaire. Ce qu'il faut voir, c'est les effets pervers. Alors, je vous en avais déjà parlé sur ce plateau, mais déjà, c'est la hausse des coûts. Donc, votre intervenant dans le bâtiment en parlait. Si vous augmentez les salaires, donc les coûts des entreprises, et que donc vous stimulez l'inflation, au bout du compte, eh ben les salariés n'ont pas gagné de pouvoir d'achat. Je crois qu'il y a un autre sujet qui peut être lié aussi. C'est que si vous stimulez la consommation des ménages en France fortement, vous allez crever le déficit commercial qui est déjà en France assez important. Hein. Si vous consommez plus mais vous ne produisez pas plus, ben il y a une partie de cette consommation qui va être importée. Et je pense que aussi le troisième sujet, c'est celui de l'emploi. Si vous augmentez le coût du travail, les entreprises sont moins incitées à embaucher. Le supermarché par exemple a préféré mettre des caisses automatiques plutôt qu'embaucher des caissières. D'accord. Par exemple. Donc voilà, je pense que c'est vrai que c'est attirant, on a envie d'aider les gens qui sont un peu sur des bas salaires, mais je trouve qu'il y a quand même une part de démagogie dans cette mesure.
Sylvain Bersinger, Pierre Rondeau disait, mais après on peut aussi passer le SMIC à 1600 euros, mais si on ne touche pas aux cotisations patronales concrètement, elles servent à quoi ces cotisations ?
Les cotisations, c'est ce qui va payer, au bout du compte, le système social français au sens large, hein, la santé, le chômage, les retraites, etc. Donc, baisser les cotisations, très bien. Après, il se pose une question de finances publiques, de qui les paye. Donc, soit vous baissez la qualité de la protection sociale d'une manière générale, soit l'État met la main à la poche, mais on sait qu'on a déjà un
déficit
public important. Donc je pense que c'est une mesure à manier aussi avec précaution, parce que au bout du compte, ce sera le contribuable qui le payera. Donc le salarié aura gagné d'un côté, ce que le contribuable aura perdu de l'autre. Donc je pense pas que ce soit forcément la solution. Je pense que à long terme, si on raisonne sur plusieurs années, la solution, c'est d'essayer de gagner en productivité, d'être plus efficace. Si on regarde les tendances de long terme sur plusieurs décennies, qu'est-ce qui fait les gains de pouvoir d'achat ? C'est quand les gens deviennent plus efficaces, plus productifs. Donc ça veut dire de la formation, ça veut dire la formation pas que à l'école. On sait que les classements PISA sont là pour montrer qu'en France, on a un problème là-dessus. La formation tout au long de la vie, l'apprentissage, la recherche et développement, on sait qu'on est en retard là-dessus en France par rapport à d'autres pays, le contexte administratif, la lourdeur bureaucratique auxquelles peuvent être confrontées les entreprises. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de leviers pour essayer de rendre les entreprises plus dynamiques, plus productives et à terme d'avoir des gains de pouvoir d'achat. Mais voilà, passer le SMIC à 1 800 euros d'un claquement de doigts, j'ai peur que les effets négatifs l'emportent sur le gain que vont avoir les salariés.
Bah merci beaucoup, en tout cas Sylvain Bersinger pour toutes ces explications. On a également Eric qui nous appelle de Saint-Chef dans l'Isère et qui est chef d'entreprise. Bonjour Eric.
Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Alors on a déjà eu un chef d'entreprise tout à l'heure qui n'était pas très satisfait de ce SMIC à 1600 euros. Vous, est-ce que vous seriez capable de payer vos salariés à ce prix-là ou pas du tout ?
Alors deux choses. Première chose, je n'ai aucun salarié qui est au SMIC.
D'accord.
Tous payés au-dessus.
Bah super.
Deuxième chose, je suis outré par cette réforme et très énervé par cette proposition qui est populiste et qui est politico-politicienne. On en vient à promettre des salaires aux gens pour être élu, c'est n'importe quoi. Je suis outré par ça.
Après c'est la campagne, hein. Franchement Eric, c'est une proposition de campagne quoi. Voilà, l'idée c'est quand même de gagner. Donc si vous proposez un SMIC à 1100, c'est moins attirant qu'un SMIC à 1600.
Effectivement, vous avez entièrement raison. Je considère en tant que chef d'entreprise, j'ai une petite entreprise. On n'est pas grand. Et je suis issu d'un milieu ouvrier. Je me suis fait tout seul. Je considère qu'aujourd'hui en France, en fait, pour être élu, on tape sur le patron et on tape sur l'entrepreneur et on tape dessus plutôt que d'essayer de créer de la croissance. J'adore les propos de Péricot et j'adore Péricot tout court. Bonjour.
Bonjour.
Merci. Voilà, avec un pragmatisme qui est le même que le mien et aujourd'hui en fait, il faudrait que tout le monde ouvre un peu les yeux et qu'on se rende compte qu'avec ce type de proposition, on n'encourage pas le travail et la valeur travail est à remettre.
Ah bah si, parce que c'est le SMIC, pour gagner le SMIC, il faut travailler.
Mais aujourd'hui pour gagner le SMIC, il faut travailler et la personne qui gagne 1680 euros par mois et qui voit quelqu'un qui a le SMIC qui va gagner 1600 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait en tant que chef d'entreprise?
Vous êtes obligé d'augmenter aussi celui qui est à 1006, parce qu'effectivement, si vous avez un ouvrier qualifié, il peut pas gagner la même chose qu'un ouvrier non qualifié. C'est impossible. Donc après, ça s'appelle le ruissellement, en fait.
Ça s'appelle le ruissellement, mais aujourd'hui, le ruissellement ne ruisselle plus. Et on tape sur, pardon pour, voilà.
Non, mais j'ai compris.
On tape sur les chefs d'entreprise, et nous, on entreprend, et je vais vous dire, bien franchement, j'envisage de quitter cette France que j'adore, mais j'envisage de quitter le pays pour aller voir d'autres horizons. J'ai 3 enfants qui ont 6 ans, 8 ans et 12 ans et je ne supporte plus ça. Des manifestations anti-RN, c'est anti-démocratique et des SMIC à 1600 euros. Enfin, voilà. Pour moi, c'est une très mauvaise proposition.
Eh ben merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. On va terminer avec des messages. Rémi, j'espère quand même qu'il y a des smicards qui nous disent que c'est une proposition formidable.
Pas vraiment. Non, pas, ah bon. En tout cas, j'ai pas beaucoup de messages dans ce sens. Il y a beaucoup de patrons qui nous écrivent. Il y a Émeric qui nous écrit un SMIC à 1600 euros net, ça me choque un peu. Moi, je suis patron de ma société, j'ai du mal à me verser 1500 euros de salaire en faisant plus de 250 euros par mois. Alors, aider les sociétés à baisser les charges, les patrons géreront eux-mêmes les salaires et vous verrez que ça se passera bien.
Un SMIC à 1600 euros net, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Écoutez, au vu de tous les témoignages qu'on a, je trouve que la mauvaise va l'emporter.
Oui, exactement. C'est une mauvaise idée c'est massif, hein. 71% de ceux qui nous sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment que ce serait une mauvaise idée.
Mais écoutez, je pensais que ce serait l'inverse. Tout simplement, et que ce serait plutôt vu comme une très bonne idée. Je suis étonnée. Dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur des RMC. On parlera d'Mbappé qui prend position contre les extrêmes. Est-ce qu'il a raison de faire ça? On se demandera si Jordan Bardella est prêt à gouverner. Et puis, est-ce que vous êtes fidèle à votre constructeur auto? Vous savez, la fameuse phrase dans les bons écrans du ski, Bernard est très Peugeot. Ouais.
Peugeot à mort.
Il est Peugeot à mort. Donc on se demandera si vous avez un constructeur automobile à vie ou si au contraire, vous aimez changer ou pas. Ce sera le zapping dans un instant dans Estelle Midi.
Pensez à couper RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Rémi Barré, avec Pierre Rondeau, Emmanuel Dancourt et Péricot Légas. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre ce zapping avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Kylian Mbappé qui prend position contre les extrêmes. D'accord, pas d'accord. Hier, le capitaine des Bleus s'est exprimé publiquement sur les élections législatives en alertant sur les extrêmes qui sont aux portes du pouvoir et en appelant tous les jeunes à aller voter. Une prise d'opposition que partage Séverine, elle est chef d'entreprise et auditrice RMC à Saint-Étienne.
Oui, c'est une bonne chose. Il n'a pas un rôle. Il est citoyen français. Il donne son avis. Il précise pas effectivement les extrêmes, mais en tant que citoyen français, il a le droit effectivement de donner son avis. C'est pas parce qu'il est footballeur professionnel, c'est pas parce qu'ils sont acteurs professionnels, c'est pas parce qu'ils sont effectivement artistes qu'ils n'ont pas le droit de donner notre avis.
Alors, Kylian Mbappé a-t-il eu raison de prendre position contre les extrêmes, Manuel Dancourt?
Ah, complètement. Évidemment. Et moi, j'attendais ça de lui, des gens qui sont en situation de pouvoir donner leur avis. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque dans l'équipe, il y a une tribune qui est parue dimanche, hier,
avec beaucoup de sportifs
qui ont signé. Il y a Yannick Noah, Marie-Josée.
Alors après, eux, ils appelaient à voter contre le RN. Kylian Mbappé, c'est contre les extrêmes.
Oui.
C'est pas tout à fait.
Et Marcus Thuram contre le RN. On a bien compris ce qu'il disait quand même Mbappé.
La phrase entière et la déclaration entière de Mbappé, c'est effectivement contre les extrêmes, mais je rejoins ce qu'a dit Marcus
Thuram. Exactement.
Oui, et Marcus Thuram a
c'est un peu bizarre, je trouve.
Alors, il ne dit pas qu'il est pour le Front populaire, mais Marcus Thuram l'a clairement dit, je suis contre le RN et j'appelle à voter contre le RN. Mbappé a dit contre les extrêmes, donc on pourra avoir un débat sur la gauche et la droite, mais en tout cas, ici, il rejoint Marcus Thuram, il est contre le RN.
Mais moi, je m'étonne qu'en fait, Kylian Mbappé, qui genre, aujourd'hui a un autre statut que Marcus Thuram, ne dise pas directement... Voilà, j'appelle à voter contre le RN. Pourquoi est-ce qu'il prend ses pincettes ? C'est
parce
ça qui m'a étonné.
50% sans doute des gens qui aiment tous ces gens-là, les chanteurs, les acteurs, les sportifs aujourd'hui, ou 40% votent RN.
Donc ouais, tu peux
pas
beaucoup,
complètement, bah oui, pas 50, mais tu peux pas complètement te couper. C'est pour ça qu'aujourd'hui on
Squeezie
entend pas.
Squeezie l'a fait.
Vous trouvez Squeezie, il a perdu 100 000 abonnés, je crois.
Oui, mais en il a bien eu du courage. Les autres joueurs l'ont fait. Donc
et tous les youtubeurs sont en train de suivre Squeezie. Mais c'est plus comme avant où t'avais tous les chanteurs qui montaient au créneau, t'avais tous les acteurs qui montaient au créneau, enfin en tout cas
parce
des
certains disent que c'est contre-productif en fait.
Ouais, bah alors le côté contre-productif, mais... faut qu'on arrête de nous le ramener.
Oui, mais
parce que c'est une manière de faire taire les gens, moi je trouve. Donc contre-productif, on n'entend plus que ça en ce moment. Quoi qu'on fasse, des manifs, c'est contre-productif. Non, c'est pas contre-productif. On dit ce qu'on a envie de dire.
On est en démocratie.
Oui, mais là, il le dit pas.
N'importe qui peut donner son avis. Alors oui, effectivement, dès lors que c'est une personnalité publique, forcément, il prend un risque de se mettre à dos une partie de sa communauté. Mister V, par exemple, autre youtubeur célèbre, l'a clairement dit et l'a dit de façon plus sévère que Squeezie disant les fachos dehors, arrêtez de me suivre. Il a même appelé à ce que ces gens-là arrêtent de le suivre. Il a assumé. Moi, j'ai envie de dire, ces gens-là qui portent une voix, qui sont écoutés par des millions de personnes, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Ils ont raison de le faire. Ils ont raison de prendre parti. Oui,
ils sont droits dans leurs bottes.
Peter Parker.
Et bravo.
Ils ont droit de le faire. Ils doivent le faire. Je suis très content qu'ils le fassent. Et je précise un truc parce que sur Twitter, ce week-end, je l'ai beaucoup, pas relayé, mais on en a beaucoup parlé. Et des gens me disaient, mais si ça avait été un footballeur pour le RN, j'aurais dit le même discours. Si ça avait été ça, j'aurais dit
ça
la même chose.
Ça n'arrivera jamais, tu le sais très bien.
Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pars du principe qu'une semaine en démocratie, n'importe qui, du plus petit smicard au milliardaire en short, n'importe qui a le droit de s'exprimer en politique.
Bien sûr.
C'est le principe de la démocratie. Tout le monde a droit au chapitre et la voix au chapitre a droit à la parole.
Et tu sais très bien que jamais un footballeur n'appellera à voter RN.
En 2017, Marine Le Pen, quand lui posait la question dans son gouvernement s'il était élu qui ministre des Sports, elle avait dit qu'il y avait un entraîneur de Ligue 1 française qui était pour elle et qui serait nommé. On n'a jamais su qui c'était.
Oui, enfin, on avait. Oui, bon.
On n'a jamais su qui c'était officiellement. Oui. Voilà, il y a des gens qui, peut-être, seraient ouvertement ou inconsciemment pour ce camp-là. Mais s'ils le disent, c'est leur droit. C'est une démocratie. Tout le monde donne son opinion.
C'est très bien. Perico Légas, il a raison, Kylian Mbappé. Tous ces joueurs de l'équipe de France, est-ce qu'ils ont raison ?
Je fais une énorme distinction entre le droit que ces gens ont de s'exprimer, grands sportifs, acteurs, intellectuels, tout ce qu'on veut. Mais ça ne sert à rien et ils trompent les gens qu'ils représentent. Ils représentent le football français. Qui ne prend pas position dans le débat politique, lui prend un risque énorme à introduire un clivage idéologique dans le football français qui reste un sport.
Le sport a toujours été politique, Perico. Ça a toujours été politique, le sport.
Politique dans la mesure dans son fonctionnement, mais dans l'expression dans une campagne électorale, un footballeur pour ce qu'il représente dans sa globalité avec l'enseigne, qu'il appelle à voter en disant surtout allez voter. Ça c'est formidable parce qu'il fait un acte civique.
Mais
qui prend une position sur les extrémistes, mais pour tous les électeurs du Front populaire et tous les électeurs du Rassemblement national, les gilets jaunes, le réforme de retraite, c'est l'extrémisme. Ça veut dire quoi ? Qu'il aille jusqu'au bout de son propos. Il sait même pas s'exprimer politiquement. Tout le monde peut pas dire ça.
Tout le monde peut être extrémiste
de tout le monde. Qui disent, je suis contre tel type d'idéologie.
Voilà. Je suis d'accord.
Mais je suis contre les extrémistes. Sous-entendu, j'englobe les deux extrêmes. Ce qu'a dit le président de la République. En fait, il fait. Donc, ça veut dire qu'il est macroniste. Donc, que monsieur
Mbappé. Pas une surprise.
Ah, mais si, qu'il assume. Il dit, je vote Macron.
Ah non, mais oui.
Ah, si.
D'accord.
Non, mais on peut pas dire, je dis pas, je dis un peu.
Il l'a pas dit.
Macron est figé dans les vestiaires.
Je vote pour Emmanuel Macron et je soutiens le président de la République. Ça, c'est clair.
Ensuite, il pourrait le faire.
Mais je suis une figure internationale de la jeunesse et je vous dis le bien et le mal, ce n'est pas à lui de le faire.
Il a pas dit comme ça, il a pas méjugé, il a pas pris.
Il a dit, je suis contre les extrêmes et je soutiens Thuram. Ça veut dire, je suis contre le Front populaire, je suis contre le RN, je soutiens le président de la République.
Et c'est pas une surprise pour beaucoup de
personnes. C'est son droit, mais qu'il le dise clairement, qu'il joue pas au plus malin. Ensuite, en un deuxième temps, chaque fois que ces élites, parce que c'est quand même une élite, il n'est pas au SMIC, il vit dans un confort, voilà, et tous les grands intellectuels, et tous les grands artistes, quand chaque fois qu'ils ont fait ça, le cas le plus flagrant, c'était la première élection de Trump. La totalité de l'intelligentsia culturelle américaine s'est mobilisée contre Trump. Il a été tué triomphalement. Là, les gens qui ont entendu hier, les gens qui étaient neutres, en ont marre qu'on leur donne des leçons de morale.
Quelle leçon?
Mais si, une leçon, une consigne politique, c'est une leçon de morale. Ne vous trompez pas de vote. Morale. Ne vous alliez voter
pas
mal.
Parce qu'il gagne des centaines de millions d'euros, qui n'a pas le droit de s'exprimer.
Je te dis qu'il a le droit de s'exprimer, je te parle de l'effet que ça fait sur les gens à qui il s'adresse.
Personne,
c'est contre-productif.
Personne ne va se dire, ah, Mbappé, il a dit ça, mon Dieu, je suis juste une personne.
Ils n'ont pas envie d'avoir des leçons de morale de ces gens-là.
C'est pas une leçon de morale de ces gens-là. Là, ils poussent les gamins à aller voter. On peut que les encourager.
Alors ça serait très bien. Qui se tiennent à la participation.
Comment tu peux parler au nom de ces gens-là?
Allez voter. Ça serait formidable. Allez voter. Il faut aller voter. Exprimez-vous. Prenez vos positions. Mais ensuite, donnez la couleur du vote que vous devez avoir de la part d'un quelqu'un d'aussi célèbre, mais que ce soit Yannick Noah ou d'autres, c'est contre-productif. Ils vont faire que crisper le débat.
Non. Enfin, Yannick Noah, c'est pas la première fois. On sait pour qui il vote. Il s'en est jamais caché.
Et ces gens-là ont contribué à fausser le débat et à apporter des voix aux gens qu'ils dénoncent. Voilà. C'est mathématique. Ça s'est vu. Chaque fois qu'ils ont pris des positions contre le Front National, c'était 36.
C'est pas parce qu'ils ont pris des positions contre le Front National que le Front National a gagné les élections.
En tout cas, ça l'a pas empêché. Non, ça ne l'a fait que faire monter.
Ça ne l'a pas empêché, d'accord.
Vous avez des gens qui sont neutres, que ça exaspère. Pas de consigne de
et vous avez, oui, mais vous avez des jeunes, en fait, qui ne seraient peut-être pas allés voter s'ils n'avaient pas vu Kylian Mbappé ou Marcus Thuram leur dire qu'il fallait voter.
Aller voter, c'est très bien. Je pars de la fin de la phrase. Contre les extrêmes, c'est une position idéologique qu'il assume. Je suis
mais
pour Emmanuel Macron.
Il l'assume puisqu'il l'a dit.
Qu'il dit je suis pour Macron.
Il assume.
Mais qu'il dit ce que ça signifie, c'est quoi ne pas voter les extrêmes?
Non, mais il aurait pu dire. On sait plutôt de dire je suis d'accord avec Macron.
C'est une surprise. On sait très bien qu'il va aller faire. Mbappé fait des chaînes YouTube avec Macron et Carlito et le président Macron.
On ne sait pas s'il vote Macron. Enfin, moi, je ne sais pas s'il vote Macron. Et en vrai, je m'en fous.
Ça s'appelle de la récupération.
Moi, le seul truc qui me gêne, c'est qu'ils disent je ne suis pas pour les extrêmes. Je suis d'accord avec Marcus Thuram. Mais dis, ne votez pas Front National. Va au bout de ton truc.
C'est son droit.
C'est le fait de dire, comme si c'était, bon, alors attendez, je vais quand même vous dire, alors, je me cache derrière mon petit copain. C'est ça qui me gêne. Kylian Mbappé, il est grand.
Qu'il
le dise.
Il dit, je suis pour Macron.
D'accord, appelez-le, dites-lui, soyez ses conseillers en communication.
Et non, mais t'es d'accord que de dire, je pense comme Marcus Thuram, c'est bizarre.
Je trouve que d'un côté, pendant une semaine, on a dit, les sportifs, les athlètes, les acteurs ne se sont pas positionnés. Et maintenant qu'ils se positionnent, ils ont pas le droit, ils ont
C'est quand même facile. Nous, on est là tranquille au chaud à commenter ce que fait ou ce que fait pas Thuram, ce que font pas les sportifs. Bordel, ils y vont quoi. Ils y vont. Et je sais pas au nom de qui ou au nom de quoi tu peux dire que ça énerve les gens. T'en sais rien, Perico, en fait. T'en sais rien du tout. Moi, ça m'a pas énervé.
Parce que l'audience qu'ils ont, le prestige qu'ils ont, le respect qu'ils inspirent est dû à la neutralité du sport, pas à leur position politique.
Mais le sport n'est pas neutre.
C'est pas sûr. Le sport a jamais été neutre.
Politique. Voilà. Depuis toujours, le sport est politique.
À l'intérieur, mais dans le message politique.
Mais si,
politique,
mais non, à l'extérieur aussi.
La Fédération française de football a pris position. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Fédération?
Non, mais
qu'est-ce qu'elle a dit?
Alors, Didier Deschamps n'a pas pris position. Il est l'entraîneur de l'équipe de France et donc le représentant de la Fédération française de foot.
Ils ont dit
mais
quoi?
En revanche, je pense qu'il il pourrait appeler les jeunes à aller voter.
Et est-ce qu'il l'a fait?
Non, il ne l'a pas fait.
D'accord. Donc, les autorités compétentes.
Mais c'est sa sens. Il fait ce qu'il veut,
D'ailleurs, Didier Deschamps a dit que les joueurs pouvaient prendre position. Ce sont des citoyens comme les autres, ils ont le droit de vote.
Oui,
et tu sais quoi,
c'est une position officielle de la Fédération française.
Non, et c'est normal. Mais tu sais quoi, je vais te dire, Perico, je pense que Didier Deschamps, il est très fier de ses joueurs et très fier du fait que les joueurs prennent position.
Et il a raison.
Voilà.
Mais qu'ils prennent position clairement, ouvertement, qu'il assume son opinion politique.
On n'est pas obligé. On a le droit, mais on n'est pas obligé.
Mais on nous demande ce qu'on en pense. Je dis qu'il a juste
très bien. Bon. Les GG, ce matin sur RMC, Jordan Bardella est-il prêt à gouverner en cas de victoire du RN aux élections législatives? Le jeune président du parti deviendrait alors Premier ministre. Des doutes subsistent pour de nombreuses personnes qui estiment qu'il n'a pas la capacité de gouverner, mais pas pour Jean-Christophe, auditeur RMC, qui témoignait chez les GG.
En quoi, par exemple, LFI, un Mélenchon qui n'a été que fonctionnaire toute sa vie à des postes de politique, ou un Louis Boyard qui n'a vendu que du shit, serait plus capable de gouverner, en fait. Et dans vos débats, je ne comprends pas ce parallèle, parce que quand on vote un budget, on sait très bien que tous les gouvernements ne les tiennent pas, ils sont toujours obligés de faire des magouilles ou des tours de passe-passe pour dépasser le budget. Donc le budget aujourd'hui, on sait très bien que c'est des promesses aussi politiques et qu'ils seront réajustés au moment où ils ne feront pas tout ce qu'ils annoncent, mais comme tout parti. Et donc, en fait, je comprends pas pourquoi cet acharnement à dire que le RN ne pourra pas gouverner. Moi, je pense qu'ils récupéreront automatiquement des gens. On voit bien qu'une Rachida Dati est capable de changer de parti ou d'autres l'ont fait ailleurs. Donc pourquoi il récupérerait pas des gens compétents dans d'autres partis ou des partis proches pour gouverner en fait?
Alors Jordan Bardella est-il prêt à gouverner, Pierre Rondeau?
Il y a la question de la compétence humaine et la question d'être capable de gouverner avec un gouvernement, une assemblée majoritaire et autres. Sur la question de la compétence, Gabriel Attal, qui a 2 ans de plus que lui, qui comme lui n'a pas d'expérience professionnelle hormis la politique, a réussi à mener sa barque pendant 6 mois à Matignon. Il n'a pas été critiqué à ce niveau-là. Il sera bien conseillé. Il aura des directeurs de cabinet. Il aura des conseillers en communication. C'est pas une seule personne qui va siéger à Matignon. C'est tout un pool et une team autour de lui. Donc à la juste question, a-t-il les compétences intrinsèques humaines pour gouverner? Malheureusement, je le dis, j'ai envie de dire oui. N'importe qui, même je vous dirais même que n'importe qui, moi le premier, pourrait siéger à Matignon dès lors qu'on est bien conseillé.
J'ai pas encore vu votre nom nulle part.
Mais... moi, je vais me positionner pour le ministère des Sports, par exemple.
Très bien. Emmanuel Dancourt.
Ils ont 7 ans d'écart. Hein.
J'ai dit 2 ans, c'est ton écart.
Oui. Il a 22 ans et Attal a 35 ans. Non, mais évidemment que non. Enfin, il a une compétence de quoi? Il était le neveu par alliance de Marine Le Pen.
Ah, il est toujours.
Comme ça qu'il est. Alors a priori non. Mes dernières informations disent qu'ils ne sont plus ensemble avec le fils de Marie-Caroline, la fille pardon, de Marie-Caroline.
Il est monté
quand même parce qu'à la base il était dans la famille de Marine Le Pen. Enfin, c'est quoi les compétences? Il a déjà bossé ce garçon là? Et à 28 ans, il a fait quoi à part monter en flèche, alors qu'il est du talent, on peut peut-être lui concéder ça, mais de la compétence, mais jamais de la vie.
Est-ce que tu aurais dit ça sur Gabriel Attal par exemple?
Ah exactement.
D'accord.
Ah, complètement. Alors moi,
Attal, il a démérité.
Ni faire. Moi, je l'ai pas trouvé très bon. Mais c'est un avis personnel. Donc pour moi, oui, il a démérité. Et à un moment, mais c'est pas forcément une question de jeunesse. Hein. C'est pas forcément une question d'âge. Pour moi, c'est une question d'expérience. Tu peux avoir 28 ans et avoir bossé déjà 10 ans de ta vie ou 12 ans de ta vie. Mais
en fait, ce que tu veux, c'est que ce soit un premier ministre qui ait déjà bossé ailleurs.
Mais
quoi,
quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de sa vie, quoi. Enfin, comment tu connais la vie des Français quand tu es juste quelqu'un de pouvoir et que tu seras ça toute ta vie?
Mais malheureusement, on est pas des hommes politiques qui nous fait
ça. Ça, c'est un gros problème.
Bah oui. Collégas.
En termes d'expérience, il ne l'a pas.
C'est sûr.
Il n'en a même aucune. Ni de mandat local, j'allais dire, il est député européen. Et pas d'exercice gouvernemental non plus, puisqu'il est dans l'opposition. Intellectuellement, c'est effectivement un rouleau compresseur. Ça, on le voit bien dans les débats, dans la construction. Reste ensuite à voir quel gouvernement il constituera autour de lui. C'est sûr qu'il aura à peiner. C'est un poste extrêmement périlleux, éprouvant. Et prenant, je ne doute pas qu'il ait la force, la volonté, la compétence intellectuelle. Ensuite, dans la réalité du pouvoir, il a intérêt à très bien encadrer, à avoir un très grand directeur de cabinet, un chef de cabinet, un cabinet. Alors, je suppose que dans la haute administration, il y a déjà des gens qui ont fait comprendre qu'ils sont prêts.
Bah,
ça sera quand même une épreuve pour lui.
Charles Matin, ce matin sur RMC, êtes-vous fidèle à votre constructeur auto? On a tous des affinités pour un constructeur automobile plutôt qu'un autre. Mais sommes-nous vraiment fidèles lorsqu'il faut racheter un véhicule? Eh bien, finalement, pas vraiment. Nous révéler ce matin Emmanuel Lechypre.
En France, les propriétaires de voitures électriques de la marque californienne reprennent à 88% une Tesla.
Quand ils changent de voiture, ils restent dans la même marque.
Quand vous changez de voiture, est-ce que vous gardez la même marque ou pas? Eh bien, 88% des acheteurs de Tesla gardent une Tesla. 82% pour les fidèles à la marque Dacia de Renault. La moyenne, c'est 57%. Toutes marques confondues. Renault et Volkswagen restent un peu au-dessus de la moyenne. Par contre, c'est pas fameux pour toutes les marques Stellantis. Peugeot, Citroën, Opel, DS. Alors, les pires, c'est Fiat et Alfa Romeo. Ça, c'est, Fiat, c'est 29%.
Le client change quand il a envie de changer de voiture.
29% de fidélité. Et alors, 12% chez Alfa Romeo.
Ah ouais. Alors, Emmanuel Dancourt, est-ce que vous êtes fidèle à votre voiture?
Mes parents ont toujours été très Citroën jusqu'au jour où on a eu une Honda. Mes parents sont très Citroën. On a eu une Honda qui était super mais qui coûtait cher en réparation. Je suis revenue chez Citroën parce que mon copain garagiste est Citroën. Et
comme
puis,
papa, maman.
On verra. Si oui, non, mais bon, est-ce que je suis fidèle? Moi, je m'en fiche du moment que ça roule, que ça coûte pas trop cher en réparation. Voilà, après, j'ai tendance à rouler français, c'est vrai. Oui.
Moi, il me faut un porte-gobelet, c'est tout.
D'accord.
Et des trucs pour mettre mes clés. Perico Légas.
J'ai eu ma première voiture en 1977.
Ah oui.
Une 2 chevaux.
Ah oui.
Je n'ai jamais été infidèle à la marque au chevron. Je roule Citroën, je vis pour Citroën, je suis imprégné.
Ah, c'est une table Citroën.
C'est-à-dire que tu regardes même pas ce qui se passe ailleurs.
Ah, je ne sais même pas. C'est quoi les autres marques? Je ne sais même pas.
Je ne sais pas, mais des marques allemandes, des marques.
Ah, il y a peut-être Peugeot et Renault. Alors ensuite, voilà.
Oui. Ah d'accord.
Non, donc non. Vous... Et j'adore l'automobile. J'ai roulé dans toutes les marques de voitures.
Mais Citroën.
J'ai même eu une Velsatis à un moment donné en voiture de fonction. Oui. Mais moi personnellement. Je suis marié avec d'abord l'image de Citroën, voilà l'histoire de Citroën, la tour Eiffel entre Citroën, la croisière jaune, la croisière noire, c'est une très belle histoire.
Enfin, vous roulez français, c'est bien.
Ça s'appelle Stellantis. Oui. Ah, j'ai toujours roulé. Ah non, j'ai toujours roulé français.
Ah ben écoutez, c'est Rémi Barré.
Non, moi je n'ai pas de...
Vous roulez allemand,
mais...
Vous roulez quoi?
Ah bah, aujourd'hui Peugeot, parce que...
Ah oui, bah vous roulez français alors.
J'ai mon frère qui travaille donc, voilà, dans la marque.
Ça aide.
Non, bah oui, mais forcément. Mais moi aujourd'hui, j'ai totalement changé d'optique sur la voiture.
Ah oui.
C'est plus une source de confort, de plaisir, de satisfaction, c'est une contrainte et donc...
Je viens un traumatisme. Ok. Je viens un traumatisme avec... parce que ma prochaine voiture, je voudrais rouler, mais je n'ose pas le dire tellement j'ai honte.
Vas-y.
Dans une 5008 Peugeot. Voilà, ah oui. Quand je les vois passer, je les regarde
elles
passer.
Sont belles, hein. Voilà. Ouais, elles sont belles.
Je ne vois pas ce que c'est, mais.
Ah
mais
si, c'est très beau.
Ah bon, bah, très bien.
C'est très gros.
C'est énorme.
Ah,
c'est gros,
ah bah non, faut pas rouler en grosse voiture.
C'est les... Maintenant, c'est les mêmes moteurs. C'est
Lantis, ça. Ah, je roule dans une voiture allemande, j'ai tellement honte désormais.
Mais des Mercedes, c'est merveilleux.
Mais elle est petite,
c'est une Mini. Les voitures anglaises, j'ai eu une Rover à un moment donné.
Ah bah vous voyez. Bon.
Voilà.
Et Pierre Rondeau est en vélo, donc
il a
eu
des vélos Peugeot.
Il y a des vélos Peugeot,
Décathlon.
Je suis fidèle à Décathlon. Peugeot, c'est dans quel film?
Mais c'est Les Bronzés. Mon mari est Peugeot.
Mon mari est Peugeot.
C'est ce que dit Josiane Balasco et Gérard Jugnot.
Toute la France.
Bon, dans un instant, alors ne ratez pas ça, RMC s'engage avec vous avec l'histoire invraisemblable d'un jeune footballeur de l'Essonne. Il a 12 ans, il s'est retrouvé bloqué sans ses parents au Sénégal après un voyage avec son club. Et puis à 14h, on parlera du boom des séjours en camping-car, appelez-nous, pour nous dire si les vacances en camping-car, c'est l'enfer ou le paradis. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h52, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, et c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans l'émission avec Amélie Rosy, qui RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Amélie, on va vraiment tout faire pour aider un jeune footballeur, il a 12 ans, du FC Longjumeau dans l'Essonne.
Exactement, et c'est son entraîneur qui s'appelle Vic qui nous a contactés. En avril dernier, le club de foot organise un super voyage humanitaire et sportif au Sénégal pour une partie des jeunes qui pratiquent le foot chez eux. Au départ de Paris, aucun problème, les jeunes sont ravis, le séjour se déroule d'ailleurs sur place à merveille, et puis... Au retour, rien ne se passe comme prévu. Kafang, 12 ans, reste bloqué à Dakar.
Ils ont fait le contrôle. Ils nous ont dit que le petit Kafa ne peut pas embarquer. Sous prétexte que son document était périmé.
Kafang est né en France, où ses parents sénégalais sont légalement installés et de longue date. Mais sa carte de circulation est effectivement périmée. Évidemment, carte de circulation pour mineurs étrangers. C'est le nom du document qui permet d'aller et venir. C'est comme un espèce de passeport pour les jeunes étrangers. Ah bah non, s'il est né en France, il n'est pas français. Vous allez comprendre. Non, c'est plus automatique, ça s'est terminé. Et donc, sa carte de circulation, c'est vrai, est périmée. Son père le savait. Donc évidemment, avant de le laisser partir, qui plus est, sans lui, tout seul, il s'est renseigné auprès de la préfecture et on lui a dit que ça ne posait aucun problème, qu'il suffisait d'avoir cette carte périmée plus une autorisation de sortie du territoire valide.
Donc, en fait, ça a marché à l'aller, mais pas au retour, c'est UBS.
Voilà, c'est ça. Évidemment, l'agent qui a renseigné le père de Kafang s'est trompé.
Oui.
D'ailleurs, normalement, le jeune n'aurait même jamais dû pouvoir quitter le territoire avec cette carte périmée. Résultat, depuis 2 mois, cet enfant de 12 ans est seul, sans ses parents, dans un pays dans lequel il n'a jamais mis les pieds, puisqu'il est né à Longjumeau, je le rappelle, accueilli chez des proches qu'il connaît à peine, et son père, Alioune, est évidemment désespéré.
À chaque fois, quand je l'appelle, je me mets, ça me fait mal, quoi. C'est lui qui me remonte un peu le moral. Il est né ici. Il a tous ses collègues ici, quoi. Il travaille bien à l'école. Je suis fier de lui. Là, il n'a pas les moyens pour suivre les cours en distance. Donc, il a manqué tous ses cours, quoi.
Pas les moyens pour suivre les cours à distance. Il est en classe de 5e et donc, résultat, bah, il risque de devoir redoubler si jamais il regagne le territoire français un jour.
Non, mais c'est invraisemblable et j'espère vraiment, Amélie, que vous avez réussi à l'aider. Hein.
Une demande de visa a été d'abord déposée évidemment par la famille au moment où ils se sont rendus compte qu'il était bloqué. Sauf que ça fait 2 mois alors que le délai moyen de traitement c'est de 15 jours, donc largement dépassé. Avec Solène Leroux, on a tout activé, on est remonté jusqu'au Premier ministre pour tenter d'accélérer les choses. On pensait avoir gain de cause, c'est-à-dire les accélérer. Et ben en fait on a eu mieux que ça, ma chère Estelle. Et sincèrement, on est absolument ravis. Le visa de Kafang a été délivré en urgence vendredi dernier. Il a pris l'avion tout seul comme un grand du haut de ses 12 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche matin, hier matin donc, il a retrouvé ses parents à temps pour la fête des pères. Sincèrement, on est ravis de lui faire ce beau cadeau à son papa. La triste ironie dans tout ça, et vous l'avez pointé du doigt, c'est qu'à 4 mois près, il n'aurait pas eu ce problème. Il est donc né en France de
deux parents qui, eux, sont étrangers. Ouais. Et donc, il va bientôt fêter ses 13 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra faire sa demande de nationalité française, parce que le droit du sol seul ne suffit pas. Et ça, évidemment, ça devrait simplifier sa vie à l'avenir.
Bah, bravo Amélie Rosic et bravo d'avoir aidé ce petit. Voilà, on imagine quand même la détresse à lui, celle de ses parents bloqués à 12 ans.
À 12 ans tout seul.
Tout seul. Enfin, c'est terrible.
Faire de l'humanitaire. Enfin bon.
C'est terrible. Bravo en tout cas Amélie, mais merci. Merci à vous. Amélie, petite question vacances. Est-ce que vous êtes déjà partie en vacances en camping-car?
Je suis déjà partie faire du reportage en camping-car et c'était génial.
Ah, je me souviens.
Mais pour la présidentielle de 2017 génial. Et c'était génialissime. J'avoue, et si j'y étais pas allée dans le cadre du travail, sincèrement, je pense que voilà, je serais jamais partie de moi-même en vacances en camping-car. Je vais être très sincère, mais c'était génial. Mais j'ai pas recommencé.
C'était génial. Parfois, pour trouver des emplacements le soir.
Exactement. Qu'est-ce que j'aimais? Ben en fait, dans la journée, on rencontrait des gens en fonction des. Non, mais en fonction des villages où on allait, et donc ils nous indiquaient. Non, mais vous savez, il y a une zone où vous pouvez vous garer. Vous verrez au matin, vous allez vous réveiller. Il y a une grotte, il y aura une cascade. Vous serez seul. Enfin, en fait, des endroits dans lesquels tu peux pas avoir accès. Et tu peux pas dormir avec une vue aussi magnifique là où t'es beaucoup plus libre. Voilà, j'ai pas recommencé depuis en vacances.
C'est vrai. Demain.
Oui, alors je partageais le camping-car avec une collègue féminine et ça m'allait bien que ce soit une fille plutôt qu'un garçon, quoi.
Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces anecdotes, Amélie Rosic. On vous retrouvera demain, bien sûr, dans RMC s'engage avec vous à 13h50. Dans un instant, on parle donc des vacances en camping-car. Est-ce l'enfer ou le paradis? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.